J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle semaine cinéma sur Radio Grand Air. Et c'est toujours un plaisir d'accueillir dans nos studios de la radio Pascal, qui est toujours dans le cinéma finalement. Bonjour Pascal.
Ah, toujours, sauf que là on est chez toi aujourd'hui. Ça va changer.
On change
ça
un petit peu.
Ouais, ouais. C'est bien de changer un petit peu de boutique. Ouais. Et bonjour Christophe.
Et bonjour Pascal.
Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 95 d'Entracte.
Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Alors, on va dire que les vacances approchent et
oui.
On a envie d'aller au cinéma. Hein. Forcément, avec le temps qu'il fait en ce moment.
Absolument,
c'est plutôt sympa d'aller faire un petit tour du côté du cinéma et surtout de se faire plaisir parce qu'il y a de très très bons rendez-vous au cinéma de la Brèche.
Ah, surtout pour les petits, là, on va jouer tout un tas de petits films pour les petits, évidemment, c'est normal. Oui, les vacances approchent, hein, les vacances de février, évidemment, tu penses bien. Donc, dans tous les cas, on va parler du... J'ai sélectionné 6 films cette semaine, mais là, tout à l'heure, tu me parlais de Cocorico.
Oui, alors, évidemment, on nous dit que Cocorico, bof, il y a des avis partagés.
Ouais.
Et toi, tu me dis que ça marche très bien.
Moi, je dis que ça marche
très
bien.
En tout cas.
Absolument, on a fait un très bon samedi soir, on a fait un très bon dimanche.
Ouais.
Et non, les gens sont curieux. J'ai croisé des gens aussi qui venaient découvrir le cinéma, des gens qui étaient du côté de Saint-Michel-de-Montagne. J'avais parlé du tournage.
Mm-hmm. Exactement, ouais.
Il y avait une partie qui était tournée dans le front Sadé et l'autre partie.
Dans la tour.
Pour l'extérieur, les scènes extérieures. Et pour les scènes intérieures, donc c'était au château de Montaigne, à Saint-Michel-de-Montaigne. Donc j'ai croisé des gens effectivement qui ont gravité un petit peu autour du tournage et qui ont croisé Christian Clavier, tous ses petits amis.
Ouais, c'est toujours sympa.
Au niveau du village, ouais. Apparemment, ouais, c'était une bonne expérience pour eux. Et je sais pas si c'est le fait que ça gonfle un petit peu les chiffres. J'ai pas regardé au niveau national parce que le film est tout juste sorti. Moi, j'aime bien regarder une semaine après pour voir un petit peu comment ça se comporte. Mais voilà, il se comporte un petit peu comme une comédie française, hein. C'est-à-dire que c'est quand même bien fréquenté. Donc non, j'ai pas vu de gens qui sont sortis des salles en disant non, le film est mauvais, pas du tout.
Voilà, on ressort du film, on met le sourire, les gens sont contents.
Ah, absolument, ouais. Après c'est une comédie française, hein. Il faut se laisser aller, c'est pour se détendre et c'est chouette comme ça, quoi. Donc, j'espère que ce film-là aura une bonne carrière cinématographique.
Bah écoute, on aura l'occasion d'en reparler. La semaine prochaine, on parlera de chiffres aussi.
Oui, voilà, parce que j'ai oublié mes papiers.
Bon, ça arrive.
Ouais, carrément, ouais. Voilà, c'est pas souvent, mais alors là, elle est bien bonne. Puis en plus, on n'est pas au ciné, donc j'ai rien sous la main. Ça arrive de chez moi. Donc,
Et puis de tête, hein, les chiffres, c'est pas forcément évident de les donner comme ça.
Alors déjà, je sais que le numéro 1, c'est Obélix. J'étais sur
quand même.
Oui, c'est Astérix Obélix, l'Empire
c'est
du
Milieu.
C'est pas Avatar.
Ah ben ça c'est.
Ouais, mais
c'est curieux.
J'ai été soufflé quand même. Donc voilà, je sais que c'est le film en numéro 1. Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Et les autres après, évidemment, talonne derrière. Tu vas avoir Barbie, tu vas avoir Oppenheimer, voilà, certains films comme ça, quoi. Mais bon, on en reparlera un peu plus pour donner un petit peu les proportions, évidemment, le nombre d'entrées qu'on fait à la brèche sur certains films, tu vois, toute l'année, enfin, au cours de l'année, quoi.
Eh bien, on va voir avec toi le sommaire de ce nouveau rendez-vous de la semaine sur Radio Grand Air. Les rendez-vous, les films à la brèche cette semaine en pays foyer. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir cette semaine à la brèche, Pascal ?
Alors, j'ai choisi 6 films. On va parler du dernier film de Claude Zidi Junior.
Ouais.
maison de retraite 2.
Oui, on en parle beaucoup en ce moment.
On en parle beaucoup en ce moment, oui, c'est bien, ouais. On va parler aussi du petit film donc de Rosalie Hogg, Stendrolen, Rose, petite fée des fleurs. Ça, ça sera pour les tout petits. Aussi pour les petits, les toutes petites créatures de Lucy Izzard. Si vous aimez bien les petits personnages en patin bas de blé avec des gros yeux.
Ça, ça me rappelle le très bon souvenir. Ça. C'était notre jeunesse aussi à la télévision. Il y avait ces petits personnages qu'on voyait en papier ou sinon.
Exactement. Exactement, ouais, c'est de la même veine en plus. Hein. On va parler aussi du dernier film de S.J. Jackson, Madame Web, ainsi que du dernier film de Malik Chiban, La part de Gaulois.
Ouais.
Et on va parler du dernier documentaire, donc de Jean-Michel Bertrand. On va parler des loups. Vivre avec les loups. Alors, c'est pas son premier documentaire, à Jean-Michel Bertrand.
Hein. Histoire qu'on fait un sujet sur les loups, le loup, ça passionne. Hein.
Alors, oui, ça passionne beaucoup. D'ailleurs, c'est même, on va dire, ça passionne. Même les passions, des fois, sont exacerbées, évidemment. Ça pose. Quand même des soucis sur le plan pastoral, sur les gens qui vivent vraiment en montagne, quoi, que ce soit dans les Alpes, surtout dans les Alpes, au niveau du massif du Mercantour, tout ça, là où il a fait sa première apparition dans les années 90, je crois que c'était en 92, sa première apparition. Et effectivement, depuis 92, effectivement, il s'est déployé, et en 2015, un loup a été abattu à Sourzac.
Ah oui, tu en avais parlé
dans
une fois.
Dans le poulailler d'une personne, j'en avais parlé une fois. Effectivement. Mais tu vois, là, ça a donné le coup de semence un petit peu là, de l'apparition du loup dans le Périgord. Et tu vois, on en reparlera tout à l'heure, mais c'était des sujets un petit peu tabous. Tu vois, il fallait pas en parler. C'était quelque chose qui était un petit peu caché. Et au fur et à mesure des années, on s'aperçoit depuis 2015 qu'effectivement, on a des attaques à droite et à gauche. Et effectivement, oui, ça crée des dégâts dans un sens. Dans l'autre, il y a le discours aussi, le discours un petit écologique en disant oui, on va réensauvager, on va réguler, on va dire, tous les ongulés sauvages des forêts en réintroduisant le loup. Voilà, c'est aussi le pari qui a été lancé un petit peu. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a des attaques un petit peu qui sont enregistrées un peu partout en France. Hein. Alors je parlais des massifs montagneux, mais il y a quand même les plaines.
Oui, parce qu'on passe souvent les loups à la montagne. Hein. On se dit que les loups, c'est plutôt en milieu montagnard. Et effectivement, ce n'est pas la montagne.
Hein. Oui, alors si tu veux, il est sème, c'est-à-dire à chaque fois, les loups vont former d'autres meutes un petit peu à droite et à gauche, et leur territoire est gigantesque, donc du coup, il faut qu'ils aillent très très loin. Et du coup, effectivement, les zones d'impact, on va dire, s'étendent un petit peu. Quoi.
Alors, donc, le loup est très intelligent, hein, très organisé.
Ah oui, il y avait tout ce que j'ai lu. Je suis quand même assez épaté de voir un petit peu l'intelligence, mais surtout, c'est un animal qui est capable de vivre à côté de l'homme très proche. Hein. Très très proche et à l'observer pendant des jours.
Ouais.
À l'observer pendant des jours pour trouver la faille, pour trouver un petit peu le moyen de prédater, quoi, on va dire. Mm-hmm. Parce que c'est quand même un prédateur, mais qui va surtout prédater là où c'est le plus facile à attraper, évidemment. Donc ça, c'est surtout des troupeaux, ce sont des chèvres, des chevaux, des vaches, des veaux, ce qui est pas terrible, on va dire, pour le milieu agricole, hein, qui se réveille un petit peu là, surtout dans les plaines. Hein. Un petit peu groggy parce qu'ils s'attendaient pas du tout à ça, quoi. Peut-être qu'ils avaient une vision du loup qui reste dans la forêt, qui mange des animaux sauvages, mais voilà, c'est pas tout à fait le cas, quoi. Et on le voit un petit peu prospérer aussi dans des zones où il était aussi très très présent il y a très très longtemps, c'est-à-dire 3 siècles. Je le vois là en ce moment, parce que moi je le suis régulièrement dans la presse, je vais voir des sites spécialisés, de gens qui sont super mécontents d'ailleurs, hein, j'aime bien faire la balance des choses, et bizarrement on le voit réintroduire, enfin recoloniser des territoires qui étaient jadis, on va dire, fort densifiés, tu vois, en canidés sauvages, comme la Bretagne, par exemple.
D'accord.
Comme la Bretagne, où il y a eu quand même pas mal d'attaques, notamment sur l'homme, dans les années 1700-1800. Donc c'est marrant, hein, qu'ils suivent un petit peu les traces, on va dire, de ses ancêtres, avec qui il n'a jamais eu de contact, entre parenthèses. Hein. Donc voilà, c'est un sujet vraiment, vraiment intéressant. Hein. Et la question se pose, hein, pour ou contre la réintroduction, parce qu'en plus derrière il y a le phénomène, on va en parler tout à l'heure évidemment, mais de l'abattage aussi. On abat les loups, on les réintroduit d'un côté, on les abat de l'autre. Donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc voilà, ce sera le sujet de Jean-Michel Bertrand, donc vivre avec les loups. Mais alors lui par contre n'aborde peut-être pas, lui c'est le loup vraiment dans la nature.
Très très bien, c'est un sujet intéressant.
Voilà.
Et puis on aura d'autres rendez-vous cette semaine à la Brèche. Qu'est-ce que tu nous as choisi, Pascal ?
Alors, dans le cadre donc, de la sortie du film donc, Maison de retraite 2,
ouais.
J'ai choisi comme personnage un personnage qui est là depuis très longtemps dans le paysage, on va dire.
Un jeune comédien.
Un très jeune comédien. Qui doit être là peut-être depuis les années 60.
Ouais, il va nous appeler, tu vas voir, le téléphone va sonner. Ouais.
On va parler de Daniel Prévost.
Très bien.
Peu connu.
Oui.
Souvent un petit peu dans l'ombre, hein. Il a toujours eu des rôles secondaires.
Ouais,
il n'a jamais été devant de la scène. Bien que ce soit un très bon acteur.
Ouais.
Un très très bon acteur.
C'est ça, c'est ça. Et puis c'est aussi. Un comédien qui fait aussi de la publicité, pas mal de publicité. Alors on l'a vu un petit peu à la télévision à une époque, on le voyait un petit peu faire des clips pour des marques des produits en fait,
ouais,
hein.
Ouais.
Et puis aussi pour la radio, ouais. Donc c'est quelqu'un qui est toujours
exactement,
actif.
Exactement, oui, oui, oui.
Eh bien, c'est noté, Pascal. Alors, on va commencer par l'événement de cette semaine. Évidemment, on en parle beaucoup en ce moment. C'est bien sûr Maison de retraite 2. Là aussi, on va se détendre. Alors, on a fait une suite... au premier volet, est-ce qu'ils seront à la hauteur des exigences en tout cas?
On va voir, oui, c'est le 2. Là, c'est toujours un peu tendu, le 2. Donc, alors, le premier a très très bien fonctionné. Hein. C'était même la surprise, hein, on va dire. Hein.
Oui.
C'était la surprise. Et après, ça tombait aussi à une époque où les EHPAD, on mettait un petit peu les projecteurs sur les EHPAD où effectivement il y avait des patients qui étaient quand même très très maltraités, il y avait le scandale Orpea.
Oui, voilà. C'est vrai que c'était pour redonner un petit peu aussi une bonne image de ces établissements pour voilà, accueillir les seniors en tout
peut-être
cas.
Peut-être montrer qu'il n'y a pas que la maltraitance, effectivement. Quoi. Donc Maison de retraite 2, donc un film français d'1h42, c'est une comédie hein, de Claude Zidi Junior, hein, je crois que c'est le petit-fils.
Ah bon ?
Oui, oui,
ah,
de Claude Zidi, absolument.
Oui, c'est de...
Et c'est... Alors Claude Zidi, il a commencé, ça fait 13 années hein, qu'il fait du cinéma, c'est son cinquième film. Hein. Alors là, il y a une grosse distribution, évidemment. Hein. On va retrouver Kev Adams, Jean Reno, Daniel Prévost, Liliane Rovert, Firmin Richard, Michel Jonas, Enrico Macias, là ils sont allés chercher vraiment...
dans la maison de retraite, ouais, pour ouais. Le coup.
Et Amanda Lear.
Ah oui, aussi, oui, oui. Oui. Alors je l'ai vu sur les plateaux de télévision ces derniers jours, ouais. Je pense qu'elle faisait effectivement la promo de ce film, en tout cas, Amanda Lear.
Ah bien absolument, oui, oui, il revient sur le devant de la scène.
Bah, c'est plutôt étonnant, hein, parce qu'on l'en voit très peu au cinéma, plutôt chanteuse.
Au cinéma, Amanda Lear, peut-être remonter à très très longtemps.
Ouais.
Voilà, j'ai pas fait de fiche sur elle, mais ouais, je crois qu'il me semble qu'elle a fait des apparitions dans des films, il me semble. Donc, quand le foyer qui accueille de jeunes orphelins et seniors doit fermer pour raisons sanitaires, Milan n'a pas d'autre choix que de répondre à l'invitation d'une maison de retraite dans le sud qui les accueille pour l'été. Tous embarquent donc dans le bus, enfants et anciens découvrent alors le bel Azur Club, une villa idyllique au bord de la mer. Le rêve, une aubaine pour ces gamins orphelins qui n'ont jamais eu de vacances. Mais le paradis tourne à l'enfer car anciens et nouveaux pensionnaires du troisième étage se détestent. La guerre des seniors est déclarée. Alors évidemment, Maison de retraite 2, c'est un succès. C'était un succès en salle. Hein. Il est sorti le 16 février 2022. Hein. Et il a réalisé plus de 2 millions d'entrées, ce qui est énorme. Hein. C'est un gros score, hein, je crois, pour une comédie française. Hein. Donc Maison de retraite 2 donc, sort le 14 février 2024. Donc presque 2 ans, donc jour pour jour après le premier volet. Hein. Le co-scénariste, producteur et interprète, donc Kev Adams, se précise. Mais ce qui est fou, c'est que Maison de retraite a continué son parcours. Ensuite, nous avons vendu plus de... Combien ils ont vendu de DVD?
Ah oui, parce qu'il y a la vente aussi.
Ah oui,
c'est
oui,
vrai,
oui,
on n'y pense pas.
Oui, oui, oui. Ah oui.
On n'y pense pas, il y a l'avant, le pendant et l'après.
Voilà.
Effectivement, alors combien
de DVD
de Blu-ray vendus?
100 000.
100 000, c'est énorme.
C'est énorme, ouais.
C'est ce sont les maisons de retraite qui ont acheté ou...
Ben non, je pense que c'est les gens
qui ont
entendu
stats,
le film.
Hein,
ouais, non, au vu du succès du film, je crois que les gens ont acheté le DVD, quoi.
Ouais.
Donc, comme nous dit Kev Adams, c'est un record et ça semble fou à notre époque. Le VOD a également très bien marché, hein, donc ce sont les plateformes, hein, les VOD. Hein.
Oui.
A très bien marché, ce qui prouve que les films peuvent avoir des vies longues et multiples. Puis nous avons gagné le prix du public au trophée du film français. Non seulement il a été récompensé. C'est C'est fort de tout cela que je me suis posé la question. Sommes-nous au bout de cette histoire ? Je venais de passer 2 ans avec des légendes du cinéma français en racontant combien nos personnes âgées ont encore à nous apprendre et à nous transmettre. Ce sont des valeurs que je suis fier de défendre et c'est là où j'ai commencé à réfléchir et à ce que pourrait évoquer une suite. Donc Eve Adams et plusieurs acteurs donc de la première partie sont de retour. Parmi eux, Daniel Prévost, Liliane Rovert, Marthe Villalonga, oh j'ai oublié celle-ci, Marthe Villalonga, Firmin Richard, Jean-Luc Bidault et Jarry. Par ailleurs, beaucoup de nouveaux arrivent. Jean Reno, avant d'aller, Chantal Latsou, je l'avais oublié aussi. Oui. Effectivement, Enrico Macias, je ne sais pas d'où il sort, lui, il arrive, débarque. Michel Jonas, Brahim Boulel, Luna Espinosa, Anne-Marie Vin et Stéphane Debac. Donc après Thomas Gilou, effectivement, qui a réalisé le premier, hein, Claude Zidi Junior, qui... non, pardon, c'est le fils de Claude Zidi, pardon, c'est pas le petit-fils.
Ah oui, d'accord.
Le fils de Claude Zidi, mais en scène.
Oh, c'est déjà pas mal.
Ouais. Maison de retraite 2. Il a précédemment réalisé les Degens en 2018 et la suite en 2023, ou encore Ténor en 2022. Le scénario, comme le premier volet, est signé Kev Adams et il confie. Tout est en fait partie d'un coup de fil de mon agent qui est aussi celui de Marie-Christine Barrault et Elisa Soussan chez My Family durant la phase de casting en lui disant que Marie-Christine avait beaucoup aimé Maison de retraite et pour lui demander s'il y avait un rôle pour elle dans la suite. Et Elisa lui a dit que tous les personnages importants avaient été attribués mais qu'en revanche, elle n'avait toujours pas trouvé le réalisateur du film. Mon agent a passé à moi et nous avons organisé une rencontre avec Kev et la production du film. Une semaine après, j'étais au travail. La belle histoire, c'est que Marie-Christine a finalement une petite scène au tout début. Bon, c'est gentil.
C'est gentil d'avoir pensé.
Alors évidemment, il y a des absents. Donc Gérard Depardieu n'est pas du casting de Maison de retraite.
Bah, j'imagine, vu l'actualité en ce moment de Gérard Depardieu, ça va être un petit peu compliqué.
Voilà, compte tenu de la destinée donc, de ce personnage dans le premier volet. Donc Mylène de Mongeau, décédée en décembre 2022. Et oui, Mylène de Mongeau, on en avait parlé brièvement.
Alors, hein, Mylène de Mongeau, oui, évidemment, ouais, on l'a connue à l'époque dans Les Fantomas.
Les Fantomas.
Avec Louis de Funès. Hein.
Ouais, ouais. Donc elle aussi absente du générique de cette suite. Donc, qui joue la méchante ? Donc, Anne-Marie Vin incarne la méchante de l'histoire, un personnage cynique et assez glaçant. Et Kev Adams explique à son sujet. Ce qui est troublant, c'est qu'elle est persuadée d'agir pour le bien de ses pensionnaires. Elle pense qu'ils sont très bien dans ces établissements et elle va même le dire à la télévision. Nous nous sommes en cela directement inspirés de l'affaire Orpea durant laquelle les membres du personnel témoignent à visage flouté pour parler des dérives graves du système alors que les dirigeants assumaient leurs actes à visage découvert dans les médias. J'avais trouvé très fort que les méchants essaient de se faire passer pour des gentils avec des arguments aussi basiques mais efficaces. Anne incarne cela à la perfection. On y croit immédiatement. Donc, ce film-là donc, a fait l'ouverture du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez de cette année. Hein. Et Claude Zidi Junior confie « Ce qui est drôle, c'est que mon père a été président du jury de l'Alpe d'Huez il y a tout juste 20 ans. Il y a parfois des signes comme ça. Je n'y suis moi-même jamais allé et je suis très heureux de cette première avec l'idée de continuer à montrer le film au public. J'ai hâte d'y être sans vouloir m'imaginer ce qui nous attend. Juste vivre ce moment. » Donc Maison de retraite donc a pour thématique évidemment le fond et le fonctionnement des EHPAD. Hein. Et Kev Adams et ses collaborateurs ont voulu montrer à quel point ces établissements sont encadrés, réglementés. Enfin, j'en rajouterai enfin.
Oui.
Enfin.
Ouais, et puis il y a aussi cette envie aussi de montrer un petit peu ce lien intergénérationnel aussi entre jeunes, moins jeunes et la mixité.
Voilà, et réglementé donc, et que l'humanisme ne suffit pas à les diriger. Et comme il nous dit, malheureusement, la plupart des EHPAD où l'on constate des dysfonctionnements appartiennent à des sociétés dont la préoccupation majeure est le rendement et pas le bien-être des résidents. L'actualité continue de nous le rappeler tristement et c'est ce que nous montrons à travers ce groupe baptisé Major Santé dans le film. À côté de cela, il y a en effet un problème administratif. Il est très difficile aujourd'hui de mettre en œuvre de nouvelles idées dans ces établissements, car tout est structuré par l'État. Et c'est vrai que c'est quand même... oui, c'est vrai, il faut le savoir. Ouais. Cela peut empêcher de jeunes entrepreneurs novateurs, pleins de bonne volonté, de mettre en œuvre ce changement. On sait que cette obsession de l'encadrement est aussi un frein dans notre pays, dans beaucoup d'autres domaines. Donc voilà, avec quand même une assise un petit peu dans le monde du réel. Donc Maison de retraite 2.
Ouais. À voir absolument.
De Claude Zidi Junior, oui, à découvrir à la brèche.
Si vous avez envie de passer un excellent moment, et on vous propose de découvrir ensemble sur Radio Grand Air un extrait de la bande-annonce de ce film que vous allez pouvoir voir cette semaine à la brèche.
Cher Monsieur Milan, suite à vos exploits de réunir orphelins et troisième âge, j'aimerais vous inviter pour l'été, vous, ainsi que le personnel et tous vos pensionnaires.
J'ai une grande annonce à vous faire.
Ils vont enfin te couper les cheveux ?
Non ! On part tous en vacances à la mer ! Ah !
Bienvenue au Bel Azur Club. Laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos pensionnaires. Voici Lorenzo.
Enchanté.
Bonjour.
Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont ravies de vous rencontrer.
Ok, wow, on part sur un wad.
On en fait quoi des nouveaux ?
Voir débarquer des vieux, ça me fout un pied dans la tombe, moi.
Génial, c'est la guerre !
Oh putain, ça recommence.
Ils vont s'entretuer, les yeux, ça va être trop bien !
Hop, quartier !
Stop ! Non mais oh ! Ça va pas bien ou quoi, là ?
On va dire à Milan de nous ramener dans notre foyer. Là-bas, c'est chez nous.
La vérité, c'est qu'on peut pas rentrer au foyer.
Vous avez 15 jours. Passez ce délai, je serai obligé de replacer vos pensionnaires dans un orphelinat et une maison de retraite digne de ce nom.
Si les anciens sont séparés des enfants, c'est ça qui les tuera. Ensemble, ils sont une famille.
C'est beau, la manière dont tu t'occupes des anciens, Milan. Le bonheur, on fait le tour du monde pour le trouver, et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
Christophe May.
Et c'est souvent après vous ayez été là.
Allez ! On se libère !
Tiens, prends ça, ça va détendre.
Voilà, je pense qu'on va bien rigoler, on
ouais,
va
j'espère,
se détendre.
C'est fait pour ça, voilà, c'est fait pour ça. C'est fait pour s'amuser, pour aller
moment,
rire. Voilà.
Sympa, maison de retraite 2 avec une pléiade d'artistes jeunes et moins jeunes, hein, effectivement, qu'on va retrouver dans ce deuxième rendez-vous. En tout cas, très, très frais, très,
voilà,
très agréable pour passer une excellente semaine à la Brèche. Alors, on va revenir sur la suite des rendez-vous de cette semaine. Pascal, tu nous as choisi un
bon,
autre
chez
rendez-vous.
Les
voilà, on,
chez
va,
les
on va changer de registre.
Quelque chose de plus poétique.
Comme chaque semaine, on en parle sur la radio. Effectivement, des moments famille aussi à découvrir à la Brèche.
Donc, c'est Rose. En plus, le titre est joli. Rose, petite fée des fleurs.
C'est léger.
Eh oui, oui, oui.
C'est très léger.
Un film qui nous vient pourtant des brumes du Nord, là-bas, par-delà les brumes et les glaces.
J'ai compris.
De Scandinavie, il vient du Danemark.
Sur tes couverts.
Il vient du Danemark, un film danois. Hein.
Ouais, très
oui,
bien.
D'1h15, animation famille, donc à partir de 3 ans. Donc de Rosalie Hogg Stangdrolden.
Bravo.
J'espère que je le dis bien, parce que
bravo
franchement,
pour la prononciation,
je suis
Pascal,
tendu quand c'est danois, finlandais, tout ça. Je suis,
encore, on n'a pas du japonais, là, cette fois-ci.
Pas de japonais, non, pas cette semaine. Donc c'est l'histoire du rose, qui est une petite fée qui a toujours vécu seule dans son rosier. Elle rêve passionnément d'avoir une amie, mais a trop peur de l'inconnu pour s'éloigner de son repère. Un jour, Satin, un papillon à la recherche d'aventure, croise le chemin de Rose et elles deviennent immédiatement amies, malgré leurs différences. Satin veut partir à la découverte du monde et quant à elle, Rose préfère rester tranquille dans son rosier. Mais lorsque sa nouvelle amie est kidnappée par une méchante troll de pierre, Rose doit surmonter ses peurs et se lancer dans un dangereux voyage jusqu'aux montagnes noires pour sauver Satin. Le papillon. C'est mignon.
C'est très beau.
Donc voilà, donc ça sera à découvrir donc à la Brèche cette semaine, donc à partir de 3 ans.
Voilà, c'est l'occasion de faire une petite sortie la semaine, le mercredi par exemple, l'après-midi, voilà, pour occuper les enfants.
Surtout pendant les vacances, hein. Alors ça, c'est des films qui marchent très très bien,
ouais,
surtout
c'est vrai,
dans,
c'est vrai.
C'était pendant la semaine, surtout les lundis, alors ce qui cartonne ici à la Brèche, et pourtant, c'est pas le cas dans les autres salles. Nous, on fonctionne super bien le lundi après-midi.
D'accord.
Quand je dis ça à mes collègues, moi, à chaque fois, ils sont mes collègues exploitants. Okay. Ceux qui bossent dans les cinémas, ils me disent quoi ? Tu me dis que vous cartonnez le. Oui, je lui dis oui, le lundi, on fonctionne très bien. Alors que d'ordinaire, attention, hein, c'est un jour où c'est relativement creux, quoi.
Donc ça veut dire que le lundi après-midi, les gens ne travaillent pas ou...
moi, pendant les vacances, maintenant, il y a toutes les mamans.
Ah, oui, pendant les vacances, oui.
Toutes les mamans amènent les enfants ouais. Au cinéma. Oui, oui, c'est pour ça que c'est très bien fréquenté l'après-midi. Moi, c'est pour les enfants, c'est pour les tout-petits.
Eh bien, salut voilà. Pascal, pour ce rendez-vous cette semaine à la Brèche. On va enchaîner avec un autre rendez-vous aussi léger pour les plus jeunes. Les toutes petites créatures.
Les toutes petites créatures, ouais. Donc, t'as vu la photo, t'as vu, ce sont des personnages animés.
Hein,
c'est
ouais.
Animé, c'est la pâte à modeler animée. Donc, c'est anglais, c'est un court métrage de 38 minutes, un court métrage anglais, animation famille. Hein, donc, à partir de 3 ans, de Lucy Izzard. Donc, suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure. L'humour est au cœur de ce programme, abordant avec légèreté des thèmes tels que la découverte de l'autre, le travail d'équipe, l'empathie et la tolérance. Voilà, tout ce qui forge un petit peu les petits esprits.
C'est important.
Qui commencent à vivre un petit peu en société. Et je trouve que ce sont des beaux messages à passer aux enfants.
Voilà, c'est toujours aussi sympathique de retrouver, on en parlait tout à l'heure, effectivement, à une époque, dans les années 70-80, il y avait beaucoup de petits films d'animation comme ça, alors c'était en papier, ou soit c'était, c'était avec de la laine, ou c'était même avec,
Un stylo, un crayon. Un crayon, absolument, oui, c'est vrai que les années 70, je pense, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que c'était l'âge d'or du film animé. Les films d'animation. Et effectivement, il y avait toute une pléiade. Enfin, nous, on se souvient de tout un tas d'émissions et de petites émissions comme ça, qui passaient. Et effectivement, c'était pratiquement tout animé. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de dessin animé. Alors, il y avait les premiers mangas, effectivement, les premiers films japonais. Mais il y avait toute une pléiade comme ça de petits personnages, en pâte à modeler, en papier, en plastique. On parlait de la linéa avec la craie. Avec la
crée, je crois que c'était portugais, ça, non ?
La linéa, je ne sais plus. À creuser et voilà, c'était chouette et ça donne envie, ça donnait aussi envie de faire des choses aussi, hein, parce que mine de rien c'était à la portée de tous quelque part. Un dessin animé c'est pas simple à reproduire, mais des personnages en pâte à modeler, oui, c'est faisable. Des personnages en papier, c'est reproductible, on peut le faire, quoi. C'est ça qui était chouette aussi.
Alors on a parté, Pascal, le mardi 20 février à partir de 10h, Minokino, collation offerte et un spectacle burlesque de jonglage, Bill Bloqué, par la compagnie Attraction et Phénomène. Donc si vous voulez vous faire plaisir, mardi 20 février, 10h, tout simplement à la Brèche.
Absolument, oui, ça sera en pleine vacances.
Toutes petites créatures.
Voilà, alors c'est dans le cadre des projections Minokino. Alors Minokino, c'est un film, un petit film, et un spectacle derrière. Alors effectivement, on peut avoir du théâtre, du jonglage, du chant, des contes aussi, des gens qui sont venus faire de raconter des histoires pour les enfants. Et ça marche bien. Ça marche bien et ça, on va dire, ça fait partie de l'éveil aussi. C'est-à-dire, dans une salle de cinéma, eh bien, il n'y a pas que des films, il peut y avoir des spectacles.
Des spectacles, voilà, tout simplement.
Et qui sont bien ciblés. À chaque fois, les gens sont vraiment super, les intervenants et tout. Voilà, ça fait longtemps qu'on se croise. J'en croise de nouveau régulièrement aussi. Et ils font ça très bien, hein, c'est vraiment chouette. Hein. Je sais que les gamins, ils sont éclatés à chaque fois. En plus, ils sont surpris parce que. Tu as l'irruption de l'artiste dans la salle et toi, t'imagines bien un petit peu l'effet.
J'imagine.
Ouais. Donc c'est très chouette. Donc effectivement, on est mardi 20 février, donc à 10h. Mais là par contre, ça sera 10h. Hein.
Oui, c'est ça.
Ça sera le matin.
Hein. C'est pas trop tôt.
Non, c'est pas trop tôt.
C'est les vacances.
Ouais, ça sera en pleine vacances.
On va en profiter, ouais.
Voilà.
Et bien Pascal, on va faire un petit tour sur la bande-annonce des toutes petites créatures et on se retrouve juste après. C'est plutôt sonore.
C'est
mais
sonore,
on
aime
bien. Ouais. C'est sympa.
Mais tu as vu au niveau de l'image et tout,
ouais, c'est excellent.
Ça n'a pas bougé, le procédé n'a pas changé.
Alors, c'est pas très radiophonique, désolé, mais
c'est vrai.
Pour ceux qui veulent se faire plaisir et voir le teasing, allez regarder parce que c'est vraiment sympa.
Ah ouais.
Il y a pas mal d'effets. Et puis, ça a de demander, à mon avis,
c'est l'image
beaucoup
par image.
De travail. Hein.
C'est l'image par image. Alors, il y a un atelier à la Brèche là-dessus. Ma collègue Marjorie a fait il y a quelques temps.
D'accord.
Un atelier comme ça, de faire un petit film avec des personnages, avec image par image. Et c'est vraiment chouette.
C'est
moi, j'adore.
Long.
C'est hyper long.
C'est un travail qui est relativement long et minutieux.
Ouais, pour faire une seconde, oui. C'est quand même quelques prises de vue. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que ça demande un peu de travail. Mais au moins, tu fais tes petites prises de vue, tu fais ton montage. Et après, tu le montres aux enfants et tout. Et c'est vraiment super. Je trouve que c'est vraiment... vraiment un très très bon atelier, ça. C'était vraiment une très très bonne idée. Dans tous les cas, elle a toujours des bonnes idées. Hein.
Ouais, tu m'étonnes. On va parler d'un autre rendez-vous cette semaine à La Brèche, Pascal, avec Madame Webb. C'est une sortie nationale qui arrive dans les salles de La Brèche cette semaine.
Voilà, c'est un film américain d'1h57, action fantastique de S.D. Jackson. Au niveau des acteurs, on va retrouver Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabella Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts et Adam Scott. Donc c'est l'histoire de Cassandra Webb, qui est une ambulancière de Manhattan qui serait capable donc de voir dans le futur.
C'est intéressant ça.
Ah oui.
Moi j'aimerais bien voir...
Pour le loto.
Oui, pour le loto, ouais, ça va.
Le tiercé, tu fais la totale, c'est, tu fais le
million. C'est vachement bon ça.
Ouais, ouais.
Tu vois, tu ouais. T'as un coup d'avance quoi.
Ouais, absolument. Donc forcée de faire face à des révélations sur son passé, elle noue une relation avec trois jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun. Si toutefois elles parviennent à survivre à un présent mortel. Donc voilà, Madame Webb qui se déplace dans les couloirs du temps.
Ah bah c'est toujours intéressant, ça me fait penser à un film qui n'a rien à voir, mais dans, dans la même idée, dans le même filigrane, c'était notamment eh bien ce film, La machine à remonter le temps. T'en souviens-tu ?
Oui, vaguement.
Enfin, c'est un gars qui est assis sur un siège et qui a inventé en fait la machine à remonter le temps et il traverse les époques.
Ça me dit vaguement quelque chose.
Et on fait, la machine se bloque à un moment donné. On peut plus revenir en arrière.
Et il est bloqué à quelle époque ?
Ah, il se retrouve dans le futur.
Ah, c'est le futur. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, d'accord. Ah, ouais, ouais, ouais.
Il n'est pas dans le passé là.
D'accord.
En fait, il va dans le passé et il remonte et la machine se bloque dans le futur.
D'accord.
Très intéressant.
Ah bah ouais, j'imagine, ouais, ouais.
En fait, c'est dans sa maison et ça évolue. La maison disparaît, il se retrouve dans un champ.
D'accord.
Enfin bon, c'est très intéressant.
J'ai dû le voir, mais il y a super longtemps.
Ah, c'est vieux.
J'ai pas de, j'ai
c'est
pas de...
très,
ouais,
très
ouais, c'est
vieux.
Ça, ouais, c'est un vieux film.
Il y avait
ouais.
un remake qui avait été fait
d'accord.
De ce film-là, mais c'est vieux. Donc, et bien, après Madame Webb... nous allons revenir, non plus sur la toile, mais revenir sur les écrans de La Brèche avec un autre rendez-vous, un autre film cette semaine, Ma part du Gaulois. Ma part de Gaulois.
Ouais, Ma part du Gaulois, de Gaulois.
De Gaulois.
Ah, ma part du Gaulois.
Ouais, c'est un peu pareil.
Un film français, une comédie d'une heure 31, donc de Malik Chiban.
Ouais.
Malik Chiban, c'est un musicien du groupe Zebda. Ça dit quelque chose, Zebda ?
Ah oui, bien sûr.
C'est un groupe qui avait cartonné, je crois qu'ils sont de Marseille, il me semble.
Non, ils sont de Toulouse.
Enfin, Toulousain. Donc de Malik Chiban avec comme acteur donc Adila Bendimerad, Abdallah Sharki, Lies Salem, Edine Garda, Marwan Amesker, Adda Senani et Ryan Feghoul. Donc destiné à un CAP mécanique, Mourad se retrouve finalement en cursus général grâce au stratagème de sa mère. Objectif, le bac. Une formalité pour les Français du centre-ville, mais un événement sismique pour Mourad et son entourage. Dans son lycée général, séparé de ses copains du quartier, il rencontre de nouveaux amis qui lui font découvrir la musique, avec en fond sonore les rumeurs accompagnant l'arrivée au pouvoir du Mitterrand au printemps 1981. La mère avait tout imaginé, sauf que son Mourad soit totalement indifférent au sacro-saint baccalauréat en assumant sa part de Gaulois. C'est une drôle d'époque. 81.
Ah oui,
on en avait parlé une fois, notamment surtout pour la radio.
Exactement, la libération des ondes.
C'était la libération, exactement.
Il y a beaucoup de radios qui sont créées dans les années 80.
Il y avait tellement de radios pirates avant.
Ouais.
Des radios pirates, des gens qui travaillent un petit peu dans l'ombre. Et oui, c'était la grande libération. Donc je crois que c'était le 10 mai 80, non ? Par là ?
Alors j'ai plus en tête, effectivement.
C'était en mai, hein.
Oui, c'est ça, ouais.
Ah, c'était en mai 80.
Les belles années.
Les belles années, écoute, j'avais 11 ans, j'ai pas de grands souvenirs.
Moi non
si
plus,
ce n'est que vraiment la société quand même était super agitée
en
80, donc on comprenait pas trop. Moi je faisais pas de politique, mais c'était une espèce de ouais, d'effervescence.
Une petite transition.
Ouais, comme une espèce d'espoir là, qui renaissait.
L'évolution, le modernisme.
Et qui renaissait, surtout après la crise, les deux chocs pétroliers de 70-72, hein, qui avaient quand même pas mal plombé l'économie.
Clair,
hein,
ouais.
Donc bon. Donc ma part de Gaulois. Donc, est adapté du livre du même nom, largement autobiographique, donc de Maguide Cherfi, chanteur et parolier donc du groupe toulousain Zebda.
Avec les Farmous, hein, effectivement, groupe toulousain, très actif entre 85 et 2015.
Oui. Il a été publié donc, en 2016 et a été en lice la même année pour le prix Goncourt. comme dans tous ses œuvres littéraires, Cherfi évoque une quête, donc identitaire. Donc Malik Shiban avait lu les autres livres de Majid Cherfi et connaissait sa musique. Et comme il nous dit, comme souvent lorsqu'un livre m'intéresse, je prends contact avec l'éditeur pour savoir si les droits sont disponibles. Et parallèlement, un producteur m'a contacté pour imaginer des adaptations cinématographiques. Ensuite, j'ai envoyé un mot à Majid Cherfi, qui connaissait mes films, pour lui parler de ce projet d'adaptation. Cependant, Ma part de Gaulois était une libre adaptation donc, du roman, et l'auteur n'est pas intervenu dans l'écriture du scénario et des dialogues. Et comme il nous dit, j'avais en tête qu'un film est une œuvre distincte d'un livre, et quand j'ai vu un premier montage, je ne me suis pas offusqué. C'était son regard et certains éléments, comme la dimension poétique et presque ésotérique que Malik a apporté, résonnaient chez moi. Il s'agit à la fois d'un film donc, sur la solidité des liens familiaux et sur la nécessité de s'en émanciper, comme l'explique le réalisateur. Le sujet de l'émancipation est tellement au cœur du film que même la mère fait du vélo à la fin. À travers leur conflit, Mourad et sa mère s'émancipent progressivement tous les deux. D'ailleurs, le titre « Ma part de Gaulois » renvoie à l'affirmation de son individualité. Si on y réfléchit bien, qu'est-ce que la France sinon l'opportunité pour un individu d'être lui-même, d'affirmer son individualité ? Donc, l'une des choses qui a séduit Malik Shiban dans le livre de Majid Cherfi, c'est le personnage de la mère qui lui permettait de poursuivre mon portrait de la femme maghrébine que j'avais entamé avec le choix de Myriam et de raconter une femme obsessionnelle qui est aussi une mère déterminée. Et c'est vrai qu'il en avait parlé, j'avais vu une interview de Malik Shiban, oui, effectivement, c'était sa mère qui était très, très, qui avait beaucoup de caractère, apparemment, une grosse personnalité, oui, qui l'a mis en exergue un petit peu dans son livre. Donc le choix de Myriam est de raconter une femme obsessionnelle qui est aussi une mère déterminée. Il ajoute « Je voulais faire le portrait d'une femme immigrée, maghrébine, avec ses multiples facettes. Il fallait enrichir le personnage et montrer ses contradictions. Elle a un fond culturel dont elle s'émancipe, puis elle y revient, puis s'en échappe à nouveau. La poésie de la langue arabe, le sarcasme, l'ironie la caractérisent. » Il a choisi parmi trois actrices l'Algérienne Adila Bendimirad pour des questions d'authenticité. Et comme il nous dit, quand je lui ai donné les dialogues, ils étaient en français. Et c'est elle qui les a transposés en arabe et qui me disait parfois « On ne peut pas dire ça. » Donc Abdallah Sharki donc, est issu de la première promotion de j'arrive pas à le lire. Donc lors du casting, le réalisateur lui a demandé de jouer une séquence particulièrement difficile pour voir comment il s'est débrouillé. Et comme il nous dit, je donne toujours des séquences longues, laborieuses et parfois mal écrites aux acteurs. Car si on leur propose une scène trop bien écrite, on ne discerne pas clairement le talent. Le jeune comédien a lu le livre Majid Cherfi pour se préparer au mieux en amont au tournage avant de s'en détacher. C'était particulier car j'ai eu moins d'un mois pour me préparer au rôle, comme il nous dit. J'ai beaucoup travaillé le scénario pour comprendre ce qu'a vécu sa mère, qui vient de l'immigration algérienne, et pour savoir quelle éducation elle a donnée à Mourad. Au départ, je voulais devenir Majid Cherfi, essayer de comprendre comment il est sans le rencontrer. Et Malik Shiban m'a dit « Je ne veux pas que tu sois Majid, je veux que tu sois Mourad, car il s'agit d'une réinterprétation très scénarisée et à partir de là, j'ai trouvé des points d'accroche. » Donc autour du roman d'origine de Majid Cherfi est aussi le compositeur de la musique du film Par Moment de Malik Shiban. La musique du film, donc, comme il nous dit, Par Moment, Malik Shiban me laissait carte blanche à d'autres. Il me donnait des indications de thématiques ou de styles qu'il souhaitait entendre. J'ai travaillé sur une profusion de styles et de genres et j'ai donc finalement proposé beaucoup de choses. C'était un plaisir pour moi d'être dans ce travail de musique, de film et j'ai produit des ambiances, des thématiques orientales, d'autres plus pop. Et Malik y a pioché. Donc il a quand même contribué quand même pas mal au film, non seulement donc, au niveau de sa création donc, littéraire, oui, mais aussi de la musique. Donc voilà Ma part de Gaulois donc, à découvrir à la Brèche cette semaine.
Eh bien, c'est très intéressant. On va découvrir ensemble un extrait de ce film que vous allez pouvoir voir cette semaine à la Brèche.
Maman, tu fais de quoi ?
Ton passage en quatrième.
Maman, c'est pas possible. Tu vas pas faire une fête à chaque fois que je passe dans une classe. Tu me mets la pression.
Ah oui. Il peut aller dans un bon lycée.
Oui, moi je suis d'accord.
Non. Un très bon lycée.
شكون اللي جاب الباك في الحومه؟
شكون؟
في الولاد الصغار وفي البنات ما كان حتى واحد.
الو
مراد a été admis
au sein de l'établissement seconde générale.
مراد شكراوي
présent.
Mais attention, dans un bon lycée, il devra travailler encore plus.
شفت التصاور تاع الليسي تاع مراد.
Même pas واحد كحلوش.
Alors, c'est comment dans ton nouveau lycée chez les Bourges ?
Moins 7.
Il faudrait l'aider avec un étudiant.
Je vais trouver.
Un arroi, le capitaine !
Pause, c'est à cause de ton bac de merde là que s'embrouille.
C'est
toi le rapport.
Tu crois que ton étudiant il le paye avec des macroutes ou quoi?
Le lycée c'est pas fait pour moi. C'est pas ma faute si t'as jamais de jeunesse, maman. Moi j'ai envie d'en avoir une.
Rejeté français pour la machine à laver dialek. Armété, Morad, Kharaché, Michel.
Thierry, Morad,
écris-nous quelque chose. Un truc qui tue. Mais moi je serai ni avocat, ni médecin.
Balek, hein.
على حساب شوف لا لا تعاملنا مليح باللي وليد الزوفري ما يقدرش يكون طبيب وبعدك يا بابا راح ندير كل مجهودي باش وليدي ينجح
Voilà ma part de Gaulois à l'instant sur Radio Grand Air pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Eh bien, on va revenir sur un documentaire. On en parlait en début d'émission, Pascal. Un documentaire qui est consacré notamment au loup.
Au loup, exactement. Et c'est le troisième opus.
Très bien.
Troisième documentaire de Jean-Michel Bertrand. En 2017, il a réalisé La Vallée des loups.
Ah oui, très bien.
En 2020, Marche avec les loups. Et donc là, cette année, donc Vivre avec les loups. Donc on tourne toujours autour du même sujet. Donc c'est un documentaire français du Nord 29. Hein. Donc le réalisateur donc, nous parle du loup d'une manière totalement, on va dire, nouvelle et inattendue. Il y aura des loups un peu partout en France. Il faut donc apprendre à vivre avec les loups. Dépassant, on va dire, les postures polémiques, l'auteur nous amène de manière sensible et cinématographique à percevoir différemment la nature qui nous entoure et les animaux qui l'habitent, comme les chevreuils, les chamois, les bouquetins. Un voyage de Jean-Michel Bertrand, donc avec de surprenantes rencontres humaines et animales avec son style inimitable, le réalisateur nous entraîne dans des réflexions naturalistes et philosophiques sur la nature.
Ah. Très intéressant. Ah oui. Alors ça veut dire que ce documentaire a été filmé au plus près des loups.
Absolument. Il a fait
c'est quand même relativement
de l'immersion. Alors oui, c'est compliqué. C'est une gageure déjà. C'est une gageure déjà parce que
ça crée un exercice en tout cas.
Déjà, faut croiser leur piste hein, parce que c'est les groupes sont extrêmement mobiles. Hein. Je crois que leur territoire c'est 100 km sur 100 km. Ce qui est énorme, hein. Je crois que c'est ça à peu
autant.
Près. Mais il me semble d'avoir vu ça. Je peux
ils ont un territoire
je peux tromper,
bien à eux, ils connaissent par cœur.
Ouais, c'est très très grand. Et donc voilà, puis les troupes sont mobiles, donc il faut vraiment tomber dessus. Donc là, je pense qu'au bout du troisième documentaire, je crois qu'il commence à maîtriser déjà, okay. On va dire, son écosystème hein, et surtout son approche des loups. Hein. Donc je pense qu'il y aura quand même des belles images de ce côté-là, quoi. Donc la durée du tournage s'est étalée sur un an et demi. Alors moi j'étais soufflé quand même pour la durée du tournage. Un an et demi.
Ah mais c'est relativement long.
Je trouve que c'est plutôt court.
Hein. Ah bon non, t'imagines. Ah
ouais. Oui, mais parce que je crois que t'accroches pas des victoires tous les jours quand tu sors avec ta caméra. Ouais. C'est ça le truc, c'est pour ça que j'ai vu un an et demi.
Il y a aussi forcément les conditions climatiques, les périodes aussi pour pouvoir
filmer
et suivre les loups.
Donc un an et demi, oui, je trouve que c'est quand même. C'est là que j'ai vu qu'il maîtrisait son sujet. Mmh. Parce que on te donne une caméra, on va dire tu vas filmer les loups, tu vas voir, hein, 5 ans après, tu vas mourir de faim. Tu vas revenir tout desséché. Parce que c'est compliqué d'approcher la faune. Hein. Pas que les loups d'ailleurs. Mmh. J'avais parlé une fois de la photo animalière. Ouais, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc Jean-Michel Bernard explique qu'il avait besoin de ce temps pour réussir à filmer les loups dans leur milieu naturel et pour rencontrer. Et installer la confiance avec les personnes, notamment les éleveurs, les bergers, les chasseurs, ouais, qui sont pas très contents, éleveurs et bergers, hein, qui interviennent dans le film. À la différence des deux premiers films, je ne suis plus seul, nous dit-il. Il était important pour moi de faire parler les acteurs, notamment ceux qui ont une approche positive et réaliste de la présence des loups et aller chercher au plus profond la force émotionnelle qui les anime, déclare-t-il. Oui, alors moi je sais pourquoi il est allé à la rencontre des gens, parce que c'est vrai que lors de son premier documentaire, il est allé filmer des brebis, des troupeaux, tout ça, sans forcément aller demander l'autorisation des bergers hein, qui ont protesté sur YouTube. Les mecs, ils n'étaient pas contents. Hein.
Ah, ben tu m'étonnes.
Et il dit voilà, Jean-Michel Bertrand a filmé chez moi, je ne l'ai pas vu une seule fois, voilà, donc là je pense. Qui est allé se rattraper un petit peu, hein, qui est allé mettre un petit peu d'humain là-dessus. Oui, oui, effectivement. Peut-être qu'il a peut-être voulu éviter la polémique, hein, parce que ça gronde vraiment dans les certains coins de montagne, on demande à l'Ariège, ces endroits-là, ouais, où il y a encore le sujet de l'ours aussi qui est quand même assez présent. Hein. Donc voilà, ça sera à découvrir un petit peu à la brèche. Mais alors, combien il y a de loups en France, très cher ami? Combien il y a de loups en France?
Alors, tu disais là, que c'était en...
Actuellement, en 2024.
De loups en France?
Ouais.
5000.
Mon Dieu, mais il n'y aurait plus une volaille sur pied.
Je ne sais pas.
Pas mal. Je pense que c'était... Du temps au 19e siècle, tu vois.
Oh, mais 5000 répartis sur le territoire, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Eh bien, écoute.
Mais là, t'en as combien, là, en fait?
950. Et ça fait déjà bien parler d'eux.
Ah, oui,
t'imagines,
évidemment.
5000.
Évidemment. Très bien. Merci pour cet éclairage, Pascal.
Voilà, alors, évidemment, il est apparu. Le 5 novembre 92. Hein. C'est le 5 novembre 92 que les deux premiers loups ont été aperçus dans les Alpes-Maritimes, dans le parc national du Mercantour. Hein. En 92, hein, comme quoi, tu vois, ça fait du chemin, hein, formant la meute vésubitinée, meute historique du retour du loup en France. Hein. Donc, c'est grâce aux analyses ADN qui réussissent un petit peu à les tracer. Regardez un petit peu la meute qui se forme et tout.
Oui.
Donc, évidemment, ils arrivent des Abruzzes, des Alpes Ligures et le nord des Apennins. Hein. Donc sa réinsertion est donc naturelle et non volontaire, favorisée par l'exode rural à l'origine de la déprise agricole et de la désertification de certains secteurs de montagne, donc facteur qui entraîne évidemment un développement de la forêt et l'augmentation par exemple des populations d'ongulés qui sont les proies de prédilection du loup. Hein. Donc voilà un petit peu. Alors le paradoxe, ben, c'est qu'il y a aussi à côté le plan, l'évolution des quotas d'abattage.
Ah oui.
Et c'est là que je trouve le truc assez triste, parce que c'est d'un côté on protège à tout prix, et de l'autre on va réguler, c'est-à-dire on va les flinguer. Ouais. On va les flinguer, le plan d'abattage, hein, donc l'Office français de la biodiversité, on va dire, est en charge d'aller tuer les loups. Tout simplement, les loups qui créent, on dit, des problèmes dans certains secteurs montagnards. Hein. Donc en 2016-2017, le gouvernement autorise donc l'abattage de 36 loups au total. Deux arrêtés pris la même année permettent néanmoins l'abattage de deux loups supplémentaires, ce qui porte le nombre de spécimens tués également à 40 sur cette période. En juillet 2017, un nouvel arrêté autorise l'abattage, en 2017, hein, l'abattage de 40 loups durant l'année. Alors je te laisse imaginer, donc 36 loups, 38, 40, et on est en 2017. Ouais. Et donc ça va augmenter, ça ne peut qu'augmenter dans tous les cas. Donc voilà, c'est le côté paradoxal, on va dire, d'un côté où on va vraiment protéger la biodiversité, et de l'autre côté on va les flinguer. Mais par contre, il y a un truc, mais ça c'est une réflexion personnelle, hein. Il y a eu quand même, ils ont oublié le monde rural, ils ne l'ont pas préparé du tout. Le monde rural, le monde pastoral, on ne les a pas préparés du tout. Parce que c'était l'omerta quand le loup a été abattu, notamment à Sourzac, je crois que c'est en 2015. En 2015, il ne fallait surtout pas dire que c'était un loup.
Je
ne comprends pas. Non, ce n'est pas un loup, c'est un chien. Je crois que c'est un chien sauvage, tu vois, un chien errant, tout ça, mais manque de bol, non.
Ouais.
Non, ils ont fait des études d'ADN dessus, et puis dans tous les cas, tu as le spécimen en face de toi, tu fais la différence avec un chien quand même. Ouais. Un loup, c'est très haut sur pattes, hein, entre parenthèses, hein, c'est très très haut. Et au fur et à mesure, ben, les gens en ont filmé sur leur TikTok, leur Facebook et tout ce que tu veux, hein, et notamment. Dans la Meuse, on l'a vu dans la Meuse, on l'a vu en Alsace, on le voit maintenant en Bretagne, comme quoi il a vraiment traversé toute la France d'est en ouest. Hein. Donc ça veut dire que les meutes se forment, les territoires s'agrandissent, voire de nouveaux territoires se forment, et effectivement l'expansion du loup, on va dire, pour l'instant, elle est inexorable dans tous les cas. Donc on verra de là tirer des conclusions, mais personne ne peut le faire, personne. Mais de dire clôturez vos troupeaux, comme ils disent, achetez, on va vous aider pour avoir des patous, pour les intégrer dans le troupeau. Mais ça ne fonctionne pas forcément. J'ai eu des échecs cuisants, d'ailleurs, entre parenthèses. Le loup est très, très intelligent. Hein. Il peut très bien faire une attaque préventive d'un côté pour attirer tous les patous, et puis il part derrière.
Un contre-feu. Ouais.
Et voilà, il part derrière, et t'as la meute qui attaque, et là, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Notamment dans les terrains qui sont escarpés et tout ça. Donc. C'est très compliqué. Dans tous les cas, j'ai fini sur la...
Ah non, mais je...
Tu vas voir, sur un peu de bibliographie. Ça, c'est des ouvrages que j'ai compulsés, que j'ai lus, que j'ai achetés d'ailleurs, et qui sont très très bien. Ce sont les livres de Jean-Marc Morisseau. Mm-hmm. qui le premier opus, il date de 2007, le premier livre, hein, qui s'appelle Histoire du méchant loup, 3000 attaques sur l'homme en France, donc du 15e au 20e siècle. Donc ils sont référencés, hein, par les archives. Hein. Il y a beaucoup d'archives, hein, et avec les circonstances, tout ça, des attaques, hein, évidemment. Il y a les loups évidemment qui étaient carnassiers, d'autres qui étaient évidemment enragés, ce qui décuplait un petit peu la férocité de ces pauvres bêtes. Hein. Et le deuxième livre qui est très intéressant, c'est un petit peu comment la France est organisée sur l'attaque sur les louvetiers, on va dire, et comment qui était à la charge, on va dire, de chasser le loup, qui avait ce privilège-là. Et donc ça s'appelle L'homme contre le loup, une guerre de 2000 ans. Donc c'est aux éditions Fayard. J'ai l'impression de faire la pub. Je vous fais pas de pub, enfin. Mais c'est pour les gens qui aiment l'histoire.
C'est toujours intéressant.
Ouais. C'est vraiment pour les gens qui aiment l'histoire, qui veulent un petit peu se rendre compte, on va dire, de l'impact du loup sur plusieurs siècles. Alors évidemment, il ne faut pas faire de parallèle avec notre histoire contemporaine, hein, ce qui ferait une grossière erreur. Hein. Mais c'est pour vous donner un petit peu le ton, parce que j'entends souvent des gens qui disent « Oui, non, mais de toute façon, c'était pas si grave que ça. Mais si, le loup était capable d'enrayer la machine économique de l'homme. Hein, il avait un gros impact, hein, sur les animaux de bas. Et voilà, ça remet un petit peu l'église au milieu du village. Hein, » l'étude de Jean-Marc Morisseau, hein, qui est un universitaire. Donc je vous le recommande. Hein, donc Histoire du méchant loup, 3000 attaques sur l'homme en France, ou alors L'homme contre le loup. Donc ça, c'est le deuxième bouquin que je suis en train de finir, d'ailleurs, entre parenthèses, qui est très bien écrit. Ouais. Et puis surtout, il y a beaucoup de cartes, des illustrations, il y a tout un tas de voilà, c'est très intéressant.
Voilà, et puis on aura aussi une petite pensée à Jean-Paul Auriac, notre ami du Périgord, que nous recevrons peut-être ici à la radio, qui nous a écrit, c'était le temps des loups, le loup au Lébérou, donc des récits, des chroniques, oui, sur l'histoire des loups, et c'est très intéressant parce qu'il a fait un joli bouquin sur ça justement. Il a pris des anecdotes.
Exact. Il n'était pas journaliste.
Absolument.
C'est ça, il faisait la radio.
Bien connu, et on travaillait ensemble sur une autre radio à l'époque.
Oui.
Voilà.
J'ai eu vent de son livre, effectivement.
On aura l'occasion de l'inviter ici à la radio pour parler des loups. Puis, évidemment, très vite, on a quelques films qui sont sortis sur les loups.
Ah oui.
Des films, oui. Le territoire des loups, avec notamment Liam Neeson. On a aussi Le pacte des loups,
oui.
Très bon film.
Oui, oui.
On avait quoi d'autre? Le dernier loup. On avait aussi
Danse autour du feu. Non, Danse avec les loups.
Oui, c'est possible,
oui,
aussi. Ouais.
Mais oui, t'as le loup dedans, dans Danse avec les loups, avec Kevin Costner.
Oui, L'enfer des loups. Et puis Cro-Blanc aussi.
Ouais.
Cro-Blanc, très bon film.
Loup-garou de Londres.
Ah oui, exactement. Voilà.
Bon, mais là, c'est autre chose.
C'est pas le même.
Là, on est sur du lycanthrope, là.
En tout cas, merci pour cet éclairage, Pascal. Et ça sera l'occasion d'aller voir ce très bon documentaire de Jean-Michel Bertrand.
Absolument, oui, si vous êtes fan de
cette semaine
sauvage,
Brèche,
en plus, oui, je pense qu'il va y avoir des superbes images là-dessus, par contre.
Ouais. Alors, on va parler, bien sûr, d'un acteur qu'on va voir cette semaine dans une comédie française, Maison de retraite 2, Daniel Prévost.
Daniel Prévost, absolument. Qui es-tu, Daniel Prévost? D'où viens-tu? Alors, c'est un acteur. Il est né le 20 octobre 1939 à Garches, dans les Hauts-de-Seine. Daniel Prévost, c'est 58 années de carrière, 110 films et séries tournées. Et il a reçu un prix en 1999. Et là, lui, il n'a pas eu Gérard, lui, par contre. Hein. Il a eu le César du meilleur acteur dans un second rôle.
Ah bon?
Pour quel film?
Un second rôle?
Ouais. Le dîner de cons.
Ah oui.
Qui a cartonné.
Ben oui.
Qui a cartonné, ce film-là.
Ben oui, c'est vrai.
Donc on va parler un petit peu
avec
de ça.
Avec Villeray.
Jacques Villeray, ouais, Thierry, oui, Lhermitte,
et
Francis,
oui,
Huster. Ah, oh, oui.
Très bon.
Donc ça, au niveau de sa filmographie, il a commencé en 1966 dans Le Roi de cœur de Philippe de Broca avec Michel Serrault et Geneviève Bujold. En 72, on le verra dans Elle cause plus, elle flingue, de Michel Audiard, que ouais, bon nombre de gens ont vu dans les années 80, ça tourne en
juste
boucle.
Juste le titre, déjà, on sait que du Audiard. Hein.
Plein 70, hein, tu sais. Ça. Catherine avec Catherine Samy et Cheikh de Corée. En 72, Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Ouais.
De Jean-Yann.
Exact.
Avec Michel Serrault et Bernard Blier. En 84, on le verra dans Liberté, égalité, choucroute. Un film sur la Révolution, oui, de Jean-Yann, toujours pareil. C'est l'incisif Jean-Yann. Avec Catherine Alric et Ursula Andress. En 1990, alors un très grand film. De Claude Berry. Alors là, celui-là, je l'ai vu plusieurs fois. Parce que, voilà, si vous voulez un film sur la politique, si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est que la politique, allez voir Uranus de Claude Berry.
Ah ouais, d'accord.
Avec Gérard Depardieu, Michel Blanc, Fabrice Lucchini quand il était tout jeune. Il était tout jeune, Fabrice Lucchini joue le rôle d'un communiste. Excellent dans son rôle. En 1993, grand film d'Evangelo, évidemment, j'en ai parlé, j'en reparlerai toujours, chef-d'œuvre majeur du cinéma français, Le Colonel Chabert.
Ah oui, très bon.
Et oui, il joue le secrétaire Boucard dans le film, donc avec Fanny Ardant, Gérard Depardieu et j'en passe. En 1996, Tenue correcte exigée de Philippe Lioré, avec Jacques Gamblin et Elsa Gilberstein. En 1998, c'est la consécration, évidemment, le film de Francis Weber, Le Dîner de cons, avec Thierry Lhermitte, Jacques Villeray et Francis Huster. En 99, là, on le verra dans Astérix et Obélix contre César. Il jouera dedans, et oui, de Claude Zidi, avec Christian Clavier et Roberto Benigni, et j'en passe. En 2000, pareil, un film qui a bien marché, La vérité si je mens, 2, de Thomas Gilou, avec José Garcia, Gad Elmaleh. En 2000, très bon film, de Jean Becker, pareil, qui a très bien fonctionné, avec Jacques Villeray et Josiane Balasco. Un crime ?
Parfait.
Non, 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 presque. Au paradis.
Ah, ouais,
un crime au paradis. Là, il s'écharpe. Ouais. Ouais. En 2006, La maison du bonheur de Danny Boone, il jouera dedans avec Michel Larocque. En 2010, Le petit Nicolas de Laurent Tirard avec Valérie Lemercier et Cadmérade. En 2019, Les blagues de Toto de Pascal Bourdieu avec Guillaume de Tonquédec et Anne-Marie Vin. Et en 2023, Mon crime de François Ozon avec Rebecca Marder et Isabelle Huppert. Alors mine de rien, il tourne Daniel Prévost, hein, même s'il n'en a pas l'air comme ça. Hein. Il en est déjà à 110 films hein, pour 50 années de carrière, c'est énorme.
C'est beau. Hein,
ouais. C'est énorme. Alors effectivement, il fait des apparitions dans les films, il a des rôles secondaires, hein, mais il est là toujours à l'ouvrage. Hein.
Et puis il a fait aussi pas mal de télévision.
Énormément.
Quelques émissions aussi,
oui,
années 70 et 80.
Avec Jacques Martin, comment ça s'appelait l'émission là?
Oh, il y a eu tellement d'émissions.
Si, c'est toute une pléiade là.
Je me rappelle plus trop.
C'était le dimanche.
Oui, c'était le dimanche.
Ça avait démarré tout le monde. Ça avait démarré Pépé et Mémé.
Non, c'était pas Merci Bernard. C'était
non,
une
c'était
autre
le cirque. C'est pas le cirque, le théâtre de. Je sais plus. Oh, je me souviens plus de cette émission-là. La biographie.
La biographie, c'est important.
Alors, Daniel Prévost est né et a passé son enfance dans un milieu ouvrier. Il sort de l'école dramatique de la rue Blanche avec un premier prix de comédie et décroche en 1964 un rôle de théâtre dans Un certain Monsieur Blotte, aux côtés de Michel Serrault. Deux autres rencontres importantes jalonnent ses débuts. Bobby Lapointe, avec lequel il écume les cabarets, et Jean-Yann, dont il devient l'un des acteurs fétiches. Habitué des émissions comiques et de la télévision, il apparaît dès les années 60 chez Jean-Christophe Averty dans Les raisins verts ou Douche écossaise, puis dans Les Saintes Chéries et La caméra invisible.
La caméra invisible,
mais oui.
Ça aussi.
Dans le même temps, on le voit faire ses débuts au cinéma dans les films comme Le Roi de Cœur en 66, de Philippe de Broca, Erotissimo en 68, de Gérard Piresque, qu'il retrouve deux ans plus tard pour elle court, la banlieue, avant qu'il ne commence ses collaborations avec Michel Audiard dans Elle cause plus, elle flingue en 72, Comment réussir quand on est con et pleurnichard en 74, ça fleure bon les cinéaches des années 60, ou Jean-Yann dans Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil en 72, ou alors Moi il y en a vouloir des sous, toujours de Jean-Yann en 73. Hein. Ça y est. C'est Le Petit Rapporteur.
Le Petit Rapporteur.
De Jacques Martin et les sketchs loufoques, écrits par GB et Topor pour Merci Bernard en 1980. Font connaître Daniel Prévost au grand public et compte parmi ses meilleures participations à des émissions télévisées. C'est vrai qu'il faut beaucoup, beaucoup de télé, hein, les années 70. Hein.
C'est vrai.
Donc, depuis Uranus en 90 de Claude Berry, où son personnage de cheminot communiste pleutre, souffre-douleur de Gérard Depardieu fait merveille, les cinéastes le voient autrement. Et c'est vrai qu'il a fait, il avait un grand rôle dans ce film-là. Même s'il était secondaire, il était vraiment excellent. Enquêtant dans Ville à vendre en 92 de Jean-Pierre Mocky, il est un brigadier junkie et coureur peu banal, alors que pour Raoul Ruiz, il revêt la soutane, tentant vainement de réveiller les habitants endormis de, eh oui, l'œil qui ment en 93. Il joue le rôle d'un curé. Ce registre étrange, propre aux deux cinéastes, est idéal pour Daniel Prévost, sans cesse en proie au comique de l'absurde. Depuis, beaucoup de cinéastes français font appel à lui pour d'importants second rôles. Donc Jean Evangelo, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans Le Colonel Chabert, Gérard Lozier dans Le Plus Beau Métier du Monde en 96, ou Philippe Lioré dans Tenue correcte exigée en 97. Il est présent dans trois des plus grands succès français de la fin du XXe siècle, comme Le Dîner de cons, pour lequel il obtient le César du meilleur second rôle, Astérix contre César en 98 de Claude Zidi, et La vérité si je mens 2 de Thomas Gilou. Son entrée dans le 21e siècle lui permet de tourner avec d'illustres réalisateurs comme Jean Becker, donc Un crime au paradis, ou Alain René, pas sur la bouche, mais aussi d'apparaître dans deux premiers films qui révéleront leurs réalisateurs respectifs, donc dans Mon idole de Guillaume Canet et La Maison du Bonheur de Danny Boone. En 2008, soit près de 30 ans après l'émission Merci Bernard, il retrouve Jean-Michel Ribes qui réalise Musée haut, musée bas. La même année, il accompagne Jean-Paul Belmondo sur le remake du film de Vittorio De Sica, Umberto D, intitulé Un homme et son chien, avant de tenir le haut de l'affiche des Petits Ruisseaux de Pascal Rabaté en 2010. Tournant régulièrement, Daniel Prévost fait office de second rôle marquant dans le registre comique. Le natif de Garches est ainsi au casting de Les Invincibles, du Goudron et des Plumes, Les Vacances du Petit Nicolas, Mission Pays Basque, ah ouais, j'avais oublié celui-là, qui est assez récent, Lucky, Les Blagues de Toto. À noter aussi ses prestations de Bertrand dans Adieu Paris et du président des Assises dans Mon Crime. Par ailleurs, il prend part aux deux maisons de retraite, donc emmenées par un casting XXL, et effectivement, notamment Maison de Retraite 2, qu'on passe à la brèche cette semaine. Voilà, pour vous donner un petit peu un éclairage sur l'énorme carrière quand même de Daniel Prévost, même si ses rôles restent seconds, on va dire, il est quand même bien présent et une turbine quand même plusieurs films, et notamment des films qui ont fonctionné au cinéma.
Vous avez passé un excellent moment, ouais, en tout cas, et tu le disais, Daniel Prévost, c'est aussi dans ce fameux Petit Rapporteur qui une excellente émission sur TF1. Maintenant, effectivement, ça me revient dans les années 70, fin 70, avec l'équipe Stéphane Collaro, Jacques Martin à ses côtés, bien sûr, le regretté Pierre Desproges, avec aussi évidemment Pierre Bonte.
Voilà, j'allais le dire.
Pierre Bonte. Mais qui est toujours en vie.
Toujours en selle.
Toujours en selle, qui d'ailleurs connaît bien notre région.
Hein. Absolument. Ouais. Grand amateur de région française, tout, on le voyait chaque fois. Il œuvrait sur la 3, Pierre Bonte.
Oui, effectivement.
Sur l'émission du patrimoine et tout, ouais, aller voir les villageois, les agriculteurs, tout ça. Non, c'était vraiment, vraiment chouette, quoi. Et un nom de gastronomie aussi, effectivement.
Voilà. Merci Pascal pour nouvelle émission, la 95e, on le rappelle, c'est important.
La 95e, oui. Ouais, c'est champagne, 5 émissions.
C'est ça, on fait les feux d'artifice et tout.
Ah non, c'est champagne. Hein.
Champagne,
hein. Bon,
d'accord,
oui,
écoute,
oui,
je vais contacter la direction et on va organiser tout ça.
Très bien.
Alors merci Pascal d'être venu ici à la radio, on va te lâcher, hein, puisque tu vas revenir...
En vacances.
En régie, ouais. Entre deux vacances et régie pour les prochains rendez-vous cinéma à la brèche. Oui. Et puis je laisse le mot de la fin, évidemment.
Eh bien, prenez soin des vôtres. Regardez-moi la télé. Écoutez Radio Grand Air et venez au ciné. Venez au ciné. Venez vous mettre à l'abri de cet hiver qui n'en finit pas. Et venez vous mettre au chaud. On a plein de choses à vous montrer.
Et au sec. Hein.
Très bonne semaine à tous et à toutes. Ouais. Et à très bientôt.
Salut Pascal.
Salut Christophe.